Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le 1er janvier 1999, 11 pays européens adoptaient la monnaie unique. L'euro a donc 20 ans et déjà une histoire tourmentée. En 2008-2009, la terrible tempête financière a failli lui être fatale, mais la monnaie européenne a finalement remarquablement joué son rôle de bouclier, non sans dégâts collatéraux, il est vrai. L'euro est un survivant que partagent 19 pays et qu'utilisent quotidiennement 340 millions d'Européens. La monnaie commune et populaire, 74% des habitants de la zone la plébiscite, à tel point que les souverainistes et les europhobes hésitent à revendiquer son abandon. Mais l'euro reste une construction incomplète. L'union bancaire reste par exemple à consolider. Quant à l'idée d'un budget de la zone euro, on attend toujours une concrétisation. 20 ans après sa création, l'euro est à la fois une monnaie incontournable et inachevée. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Xavier Rago.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes par définition économiste. C'est quoi l'OFCE en quelques mots?
L'OFCE, c'est un centre de recherche en études économiques qui analyse la situation française et de plus en plus la situation européenne, car les deux sont intimement liés. Donc on regarde les divergences, les taux d'emploi, les taux d'inflation, enfin tous les sujets au cœur de nos discussions en fait.
L'OFCE publie la revue de l'OFCE et ce mois-ci, la revue de l'OFCE, c'est améliorer la construction européenne. Elle est consultable sur la page de l'émission RFI.fr. Daniel Schwarzer, bonjour, guten Tag.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la DGAP en français. C'est l'Institut allemand de politique étrangère. J'aimerais que vous me disiez DGAP en allemand.
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. C'est un institut de recherche sur les affaires internationales et aussi beaucoup sur les questions européennes. C'est aussi un réseau de membres. On en a 3000. Partout en Allemagne, surtout 1000 jeunes gens qui s'intéressent aux questions internationales.
Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération. Vous venez de publier Il faut achever l'euro. Alors évidemment, vous nous direz dans quel sens, car évidemment, il y a plein d'ambiguïté et d'ironie dans le titre de votre livre. L'idée, c'est quand même qu'il faut améliorer l'euro plutôt que l'abandonner par perte et profit.
Exactement, il faut le parachever, mais si on ne le parachève pas rapidement, je pense que les peuples s'en détacheront, les citoyens le rejetteront. Pour l'instant, ils y sont très attachés, comme vous le rappeliez, mais ça pourrait ne pas durer, parce que la construction économique et monétaire actuelle est totalement défavorisée et joue uniquement désormais au profit de l'Allemagne, et ça, c'est insupportable à long terme.
On va avoir une heure pour en parler, pour développer cette idée. Il faut achever l'euro chez Kalman Lévy, et merci Jean d'être en duplex du studio RFI de Bruxelles.
L'euro va changer l'Europe. La création de l'euro ouvre une ère nouvelle. L'Europe est déjà une longue histoire. Elle est encore un long chemin. De plus en plus, elle sera notre quotidien.
Nous franchissons une borne qu'il n'est pas exagéré de qualifier d'historique. En un demi-siècle, les pères de l'Europe, ceux que nous appelons les pères fondateurs, et leurs successeurs ont multiplié les ponts qui unissent les États qui se partagent tout en l'enrichissant, l'Europe et notre continent. L'acte que nous posons est un acte irrévocable, un acte définitif.
Cette décision qui va voir 11 pays sur les 15 décider de constituer une monnaie commune, c'est une décision historique, mais surtout c'est une décision positive. Ça va donner au rassemblement économique qui s'est fait depuis 40 ans en Europe un couronnement monétaire et ça va nous donner un atout de puissance supplémentaire.
L'euro s'apprécie par rapport au dollar, ce qui était d'ailleurs assez prévisible, et l'Europe prend enfin son identité. Elle restera à la traduire en identité diplomatique et de défense dans les années qui viennent, mais ce sera un appel psychologique et politique considérable.
Le démarrage s'annonce dans les meilleures conditions, tous les délais ont été tenus, les engagements pris,
Et je trouve que c'est un grand espoir pour le futur de l'Europe.
C'était donc il y a 20 ans, presque jour pour jour, avec par ordre d'apparition à l'antenne, et je suis sûr que vous les avez presque tous reconnus, Jacques Chirac, Jean-Claude Juncker, Lionel Jospin, Michel Rocard et Simone Veil. Xavier Rago, une précision s'impose pour nos éditeurs. Il s'agit du 1er janvier 1999, date du lancement de la monnaie unique. Elle est encore virtuelle pour les Européens, car pour avoir des euros sonaux et trébuchants dans son porte-monnaie, il va falloir encore attendre 300.
Tout à fait. Et un petit point, on peut que se féliciter de la façon dont l'euro était introduit. C'était une prouesse technique, ne serait-ce que matérielle, de changer de monnaie avec une telle facilité. C'est passé quasiment sans aucun accroc technique, donc c'est assez impressionnant. Mais le second point, moi, que je note dans ces interventions, que je trouve tout à fait intéressant, et ça nous place directement dans le sujet, c'est que on voit que l'euro arrive comme à la fin d'un processus d'intégration économique, donc c'est un projet qui sanctionne la convergence économique, perçue comme telle en 99, on va y revenir. Et puis, Michel Rocard qui dit « L'Europe trouve enfin son identité et la dimension diplomatique est à construire, mais ça va suivre naturellement. » Donc on voit qu'il y a un projet politique très très fort assis sur une compréhension économique qui, maintenant, avec le recul, était un peu naïve.
Alors évidemment, là encore, on va y revenir. Jean Quatremer, la petite histoire qui a toujours sa place dans la grande histoire accorde à François Mitterrand et à Helmut Kohl, la paternité de l'euro.
Oui, absolument. En fait, l'idée de l'euro, elle naît très tôt. Elle naît en 1968-1969. En fait, on peut presque dire que Daniel Cohn-Bendit est le vrai père de l'euro, même s'il l'ignorait à l'époque. Pourquoi ? Parce que 1968, ça inaugure une période de désordre monétaire en Europe. C'est-à-dire que le franc commence à décrocher face au Deutschmark, ce qui fait qu'en 1969, le sujet de la monnaie unique fait partie de la campagne électorale. C'est-à-dire, ça fait partie. C'est comment éviter que le franc français continue à dégouliner face au Deutschmark et que ça perturbe le marché intérieur. Alors ça mettra bien sûr encore 20 ans à se concrétiser avec le traité de Maastricht, mais la relance vient du côté allemand du patron du parti libéral à l'époque, il s'appelle Hans-Dietrich Genscher, qui était la tête de gondole fédéraliste, si vous voulez, du parti libéral, qui relance l'idée. Et François Mitterrand se dit que c'est un moyen, certes de faire l'Europe, mais c'est aussi un moyen peut-être de couper les griffes et les dents du Deutschmark qui domine de la tête et des épaules la scène économique et monétaire européenne.
Alors justement, Daniela Schwarz, au début des années 90, on est dans quel état d'esprit en Allemagne ? Le mur de Berlin est tombé, l'Allemagne est en voie de réunification, on est dans quel état d'esprit ?
Alors, tout d'abord, le sentiment que l'histoire se passe chez nous dans ces années-là, parce que la réunification était très importante, mais l'Allemagne restait toujours dans une orientation très très européenne. Il faut voir que, comme cela a été dit, que cette idée d'une monnaie unique, ça date déjà, quand on est dans les années 90, de 30 ans presque, et entre-temps, il y avait aussi une initiative franco-allemande très importante, notamment entre Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, qui ont vraiment formulé des idées assez précises sur la question comment est-ce qu'on peut achever cette unification monétaire qui, du point de vue allemand, était à la fois un achèvement politique, mais aussi un complément important économique du marché intérieur.
Quel était, entre la France et l'Allemagne, qui était le plus demandeur, Daniela Schwarz, plutôt les Allemands, qui étaient pourtant très attachés au marc, ou les Français, qui avaient une monnaie dégoulinante, pour reprendre les termes de Jean Quatremer?
À mon avis, un projet de cette dimension ne peut se faire que si les deux côtés sont intéressés profondément dans cette étape d'intégration européenne. Et du côté allemand, comme je l'ai dit, il y avait des arguments politiques, mais aussi une crainte qui consistait à voir que la monnaie allemande, la Deutschmark, était sous une pression d'appréciation très très forte. Donc le succès de l'économie allemande, le succès de notre monnaie nationale faisait que la Deutsche Mark devenait de plus en plus chère. Et donc, cela a pesé sur la compétitivité prix de l'économie allemande dans le temps. Donc, le secteur économique était très intéressé d'avancer aussi sous des conditions bien définies parce que la réflexion économique était telle que l'euro devrait être modelé, notamment sur la Deutsche Mark et la Banque Centrale Européenne devrait être d'une manière ou d'une autre une copie de la Bundesbank qui avait une réputation très très importante dans le système allemand.
Alors on a coutume de dire en France que qu'est-ce que c'est que l'Europe pour la France, c'est la France en plus grand. Est-ce qu'on pourrait dire que d'un point de vue allemand, qu'est-ce que c'est que l'euro, c'est le marque en plus grand. On peut dire ça?
On peut dire ça d'un point de vue économique. Donc le gouvernement et le Parlement allemand à ce moment-là voulait vraiment assurer que des règles soient mises en place pour faire en sorte que la réflexion économique allemande se reflète dans la gestion de la monnaie unique.
Alors justement, Xavier Rogo, Daniel Schwarzer évoquait les règles. La naissance de l'euro a engendré les règles, les fameux critères de convergence, dits critères de Maastricht. Alors on peut en rappeler quelques-uns. Un déficit public de moins de 3%, une dette cumulée de moins de 60%. Ça, c'était une demande plutôt française ou allemande?
Alors, c'était au départ une demande plutôt allemande d'essayer de, en plus de partager cette monnaie en donnant beaucoup de pouvoir à la Banque Centrale Européenne, d'envisager une certaine discipline fiscale pour que, au sein de sa monnaie commune, ce que fait chaque État n'interagit pas trop sur les autres. Mais on voit que là, il y avait une sorte de péché originel, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout pensé la coordination budgétaire, la nécessité parfois d'avoir des relances concertées, ce qu'on arrivera à faire difficilement dans la crise. Et on a pensé la dimension budgétaire seulement sous l'angle des règles, d'un côté assez disciplinaire, sans penser la coordination de l'outil budgétaire qui sera, entre autres, un des certains péchés originaux de cette vision très par les règles dans la coordination de la politique fiscale européenne.
Alors, Jean-Claude Romain, on va parler de ce qui a marché avec l'euro. Et ce qui a marché avec l'euro, c'est d'abord la maîtrise de l'inflation.
Oui, mais je voudrais quand même revenir sur ce que vient de dire Xavier à l'instant, qui est pas tout à fait exact quand on reprend l'historique. D'abord, les critères n'ont pas été pensés, ont été pensés pour la qualification pour la monnaie unique. Ça n'a pas été pensé en termes de gestion. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on savait parfaitement, et les pères fondateurs savaient parfaitement, qu'une monnaie sans État ne pouvait pas fonctionner. Et que donc, à terme, il fallait davantage d'intégration politique. C'est pour ça que Helmut Kohl, dès le lancement du projet d'union économique, d'union monétaire, propose à François Mitterrand de créer une union politique, c'est-à-dire qu'en clair, il fallait une fédération politique pour couronner la monnaie unique. Une monnaie sans État, tout le monde, et les gens ne sont pas idiots, savent très bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc au moment où on évoque les critères, c'est pas pour gérer la monnaie unique au jour le jour, c'est simplement pour la qualification. Et là, les Français rejoignent immédiatement les Allemands, il n'y a pas eu de vrai débat là-dessus, parce que le problème, c'était comment on va faire pour sortir les Italiens. C'était ça le souci à l'époque, parce que personne ne voulait que l'Italie, pas plus la France que l'Allemagne, rentre dans la monnaie unique. Et donc, on invente des critères, et ces critères sont calqués sur les critères français, c'est-à-dire François Mitterrand, à l'époque, avait institué une règle qui était que le déficit public de l'État ne devait pas dépasser les 3%. Mais c'était juste pour écarter les Italiens, pas les Belges. On sait qu'ils avaient des problèmes et qu'on voulait les prendre dedans parce que c'était des gens sérieux, mais c'est ce que Trichet, à l'époque, qui négociait au nom de la France la partie Union monétaire, appelait l'horrible, l'abominable problème italien. C'est à ce moment-là, donc, encore une fois, faut pas se tromper dans la séquence. Et le problème, c'est qu'ensuite, on n'a pas fait la fédération politique. Et parce qu'il n'y avait aucune volonté de créer cette fédération, c'est-à-dire un gouvernement, un budget européen, un parlement contrôlant ce budget et ce gouvernement, un trésor européen qui lance des eurobonds. Et c'est ensuite que la question de la gestion de la monnaie s'est posée. Donc il y a eu deux temps, et entre ces deux temps, il y a eu près de 10 ans qui se sont écoulés.
Alors quand même, Jean-Claude Romain, un mot sur ce qui a bien marché. Ce qui a bien marché, c'est quand même la maîtrise de l'inflation. Toute la zone euro connaît une inflation très faible.
Voilà. Alors, mais il y a plein de choses qui ont bien marché. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, quand on vous explique que l'euro a rendu plus cher la vie des Français, c'est juste une vaste plaisanterie. Toutes les études, absolument toutes, le montrent. Je veux dire, la monnaie inflationniste s'appelait le franc français. La monnaie la moins inflationniste qu'on ait, c'est l'euro. Vous prenez ça sur une période de 20 ans, mais c'est éclatant. Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de l'inflation. Ce n'est plus qu'un vague souvenir. Et les jeunes générations ne savent plus ce que c'est que l'inflation. Mais les taux d'intérêt, c'est bien plus encore aussi important que les que l'inflation. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous faites vous pouvez emprunter si vous voulez acheter un appartement, vous empruntez à 1,2%, 1,3%. Les États se financent à taux zéro. Aujourd'hui, la question monétaire et la question donc d'une politique accommodante, elle est réglée. Je veux dire que la monnaie est l'euro en tant que monnaie est un succès technique tout à fait, enfin que personne ne peut contester, et ça a apporté des bienfaits, mais pas que des bienfaits. Ça, on va en parler tout à l'heure.
On va parler dans la même question. Xavier Raoult, si on se remet dans une crise qu'est en train de connaître la France, la crise des gilets jaunes, si on avait eu le franc, qu'est-ce qui se serait passé?
Avant, un petit point pour souligner le désaccord constructif avec Jean Quatremer. Je pense qu'il a raison de décrire la parce que c'est un vrai sujet, la coordination budgétaire, de décrire l'événementiel, la façon dont dans la constitution de Maastricht on a pensé les relations internationales avec la Grèce, la question grecque qui était encore plus difficile que la question italienne, etc. Tout ça c'est juste, et ce qu'il a décrit est juste. Néanmoins, si on a fait le pacte de stabilité et de croissance, si on a fait Maastricht, il y a une cohérence dans la pensée européenne de la politique fiscale inscrit dans les institutions, qui est une absence de coordination de politique fiscale. C'était assez constitutif, et le grand marché suffisait pour faire converger les économies.
Alors, illustration, qu'est-ce qui se serait passé? Crise des gilets jaunes importante qui met la France en difficulté avec le franc. Si le franc était encore là, qu'est-ce qui se serait passé? Dévaluation, perte de confiance dans la monnaie des autres pays, des autres banques centrales.
L'histoire effectivement du franc par rapport à l'Allemagne, c'est que grosso modo la France a une tendance à dévaluer tous les 20 ans par rapport à l'Allemagne, parce qu'elle génère plus d'inflation. Et il est vrai que la France a tendance à gérer des tensions sociales par parfois des hausses de dépenses publiques ou des hausses de salaires. Ça fait de l'inflation, la monnaie perd de sa valeur, on dévalue, et on dévalue au sein des accords internationaux. Dévaluer, c'est quand même pas juste technique, il faut se mettre d'accord avec nos partenaires, c'est une certaine difficulté technique.
Et c'est un certain coût.
Et c'est un certain coût, parce que qui dit dévaluation, et les Français s'en rendent compte, ça a des aspects positifs et négatifs, mais aussi des aspects négatifs, c'est que ça fait de l'inflation importée. Tous les biens qu'on achète du reste du monde, dans notre quotidien, ne serait-ce que le pétrole, dont on voit l'importance dans le débat français, coûte plus cher. Et c'est ce qui arrive en ce moment à nos amis anglais. Donc la dévaluation a un coût, mais aussi un gain, c'est que ça redonne un peu de capacité d'exportation et aux entreprises qui exportent, et ça fait des gains de ce qu'on appelle de compétitivité. Mais à court terme, c'est toujours la dimension coût qui domine.
Alors, Daniel Schwarzer, succès de l'euro, puisque au départ, il y a 11 pays qui adhèrent à la monnaie unique. Aujourd'hui, il y en a 19. 340 millions d'Européens l'utilisent quotidiennement. Le dernier pays à avoir rejoint, c'est la Lituanie, c'était en 2015. L'euro est quand même un vrai succès. Daniel Schwarzer.
C'est un succès, ça ne veut dire pas qu'il fonctionne parfaitement.
Oui, on a compris qu'il y avait des petits problèmes.
Hein. Voilà. Mais l'exemple que vous venez de citer, c'est intéressant parce que le dernier pays a adhéré à la zone euro en plein milieu de la crise, en 2015. Et donc ça démontre que, au-delà, en fait, en plus des raisons économiques et monétaires de se rejoindre à cette monnaie unique, il y a des raisons politiques très importantes, et notamment pour les pays baltiques qui aujourd'hui font partie de l'Union monétaire. Il y avait des raisons de sécurité, et notamment la pression qu'ils ressentent de la part de la Russie, qui les ont poussés vers une intégration plus profonde au sein de l'UE des 28.
Ce qui veut dire que adhérer à l'euro pour un pays comme un petit pays, les trois pays baltes sont des petits pays, c'est accroître son intégration européenne fondamentalement, et par rapport à la méfiance que les trois pays baltes peuvent avoir à la Russie, ça a un impact.
Tout à fait. Ils l'ont dit très clairement. C'était aussi l'argument en interne. Et on voit l'importance de cet argument parce que, par définition, ces pays qui deviennent membres de la zone euro, ils doivent remplir les critères de convergence dont on a parlé. Et par définition, ils sont du côté des pays qui financent les mécanismes de crise qui ont été mis en place. Donc ils savent, au moment où ils rentrent dans la zone euro, ils sont parmi ceux qui peuvent payer pour les autres. Et voilà, on voit très clairement que la raison politique de se rejoindre à l'union monétaire était très importante.
On peut dire aussi, et peut-être c'est le moment de le souligner, que l'euro est devenu la deuxième monnaie de réserve dans le monde après le dollar. Le dollar, c'est environ 60% des réserves, et l'euro environ 20%, Xavier Raoult. ragots d'un mot.
Sur effectivement, dans les portefeuilles internationaux, l'euro, à n'en pas douter, dans l'œil des non-européens, est un succès. C'est une valeur stable, même au cœur de la crise, avec les turbulences internes, la valeur de l'euro est stable. Au niveau de l'intégration économique et de l'efficacité économique globale, c'est un succès dans la compétition internationale des monnaies, à n'en pas douter.
L'euro, 20 ans, incontournable et inachevé. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Le 1er janvier 1999, 11 pays européens adoptaient la monnaie unique. L'euro a donc 20 ans et déjà une histoire tourmentée. En 2008-2009, la terrible tempête financière a failli lui être fatale, mais la monnaie européenne a finalement remarquablement joué son rôle de bouclier, non sans dégâts collatéraux. L'euro est un survivant que partagent 19 pays qui utilisent quotidiennement 340 millions d'Européens. La monnaie commune est populaire, 74% des habitants de la zone la plébiscite, à tel point que les souverainistes et les europhobes hésitent à revendiquer son abandon. Mais l'euro reste une construction incomplète, l'union bancaire reste par exemple à consolider. Quant à l'idée d'un budget de la zone euro, on attend toujours une réelle concrétisation. 20 ans après sa création, l'euro est à la fois une monnaie incontournable et inachevée. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Xavier Rago, il est économiste et président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Daniela Schwarzer est directrice de la DGAP, en français on dit l'Institut allemand de politique étrangère, elle est en ligne du studio RFI de Berlin, et Jean Quatremer, journaliste à Libération, vient de publier « Il faut achever l'euro » chez Kalman Levy, il est en dépêche du studio RFI de Bruxelles. Avant de reprendre le cours de notre débat, nous allons souhaiter la bienvenue à un nouveau titre de presse européen, avec un S à la fin. Il y a évidemment de multiples façons de parler de l'Europe, par exemple par le biais de l'histoire, de la lente mais réelle construction européenne, ou encore en arpentant les couloirs des institutions européennes. Alexandre Kouchner, rédacteur en chef d'Européen, a choisi de parler des Européens.
L'Europe, c'est nous, ce sont nous tous qui la vivons, qui la faisons. L'Europe, c'est pas Bruxelles, c'est Paris, c'est Madrid, c'est toutes ces villes, ces villages qui l'habitent, qui la peuplent. Et en fait, c'est ça dont on veut parler, pas de l'Europe comme sujet, de l'Europe comme cadre, celui de tous nos possibles.
Alors, qu'est-ce qui lie les Européens entre eux quand on va d'un Européen de Tallinn, un Européen de Lisbonne? Finalement, qu'est-ce qui les lie?
D'abord, je crois qu'il y a cette possibilité que nous avons d'être ensemble à un moment. De Tallinn à Lisbonne, on peut y aller librement, on peut se vivre, on peut se rencontrer. Et il y a, je pense, profondément un esprit européen, celui qui fait que cette gigantesque aventure politique est possible.
Vous avez choisi de parler des Européens dans Européens avec un S. On en parle comment ?
Alors, on en parle avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de passion. On va voir les gens là où ils sont, là où ils vivent. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire. On raconte des belles histoires. On raconte ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire nous tous, des Européens au pluriel.
Alors, Européen, c'est pas vraiment un journal. Non, c'est même pas un magazine. C'est
un objet d'édition. Européen, c'est 480 grammes d'Europe, c'est 160 pages qui sont divisées en 10 cahiers de 16 pages individuels. Chaque cahier est une histoire, chaque cahier est un sujet. On y vient un peu trouver ce qu'on cherche, comme en Europe, et ensuite on le partage.
Alors c'est une Europe positive, c'est une Europe négative, c'est une Europe...
C'est une Europe réelle, c'est une Europe positive, c'est une Europe qui fait, qui entreprend, qui voit, qui rêve, qui avance. Bref, c'est nous. C'est en vente, c'est dans les kiosques, c'est tous les trimestres. Kiosques, relais, librairies, partout où vous voyagez, partout où il y a de l'Europe, nous serons là.
Bonjour Eduardo, j'ai une bonne nouvelle. Les résultats sont formels, vous êtes européen.
C'est pas vrai, c'est super. Merci docteur, merci du fond du cœur. Tout va chérie, je te l'avais dit.
Je suis tellement heureuse.
Allez, maintenant, tout le monde se fait un euro-câlin.
L'euro-câlin, l'euro-câlin, l'euro-câlin.
Bravo.
européen, donc, avec un S à la fin, très bel objet d'édition, vendu 19,90 € 4 fois par an. Alors, on va revenir à notre sujet de débat. L'euro, Xavier Ragon, on a bien expliqué que c'était un succès technique dans la première partie d'émission, qu'elle avait permis aux pays qui avaient adopté l'euro à la fois d'avoir une maîtrise de l'inflation, des taux d'intérêt bas, et globalement une confiance, hein, quand on est un petit pays comme la Lituanie, l'Estonie ou la Lettonie, eh bien, l'euro permet d'accéder, hein, à une monnaie qui les protège. Alors, ce qu'on reproche souvent à l'euro, c'est son fonctionnement, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, notamment, on a du mal à voir clair un peu comment ça fonctionne, c'est le fonctionnement de l'euro reste assez mystérieux entre la Commission européenne d'un côté qui contrôle ces critères de Maastricht, entre l'Eurogroupe qui regroupe les ministres des finances de la zone euro, et puis la BCE, la Banque Centrale Européenne. L'euro, comment ça marche, Xavier Racco?
Depuis le début de la zone euro, malheureusement, disons que l'économie se venge. En fait, jamais les économies européennes n'ont autant divergé que depuis le début de la zone euro.
Alors qu'on pensait que, peut-être naïvement, qu'elles allaient naturellement converger.
Voilà, c'est que, en tant qu'économiste, je dirais qu'il y a eu un certain économicisme de penser que la politique de la concurrence, une politique monétaire saine, qui assure la stabilité des prix, ça c'est un succès effectivement, et une discipline fiscale pour chacun des pays, allait faire converger toutes les institutions. Malheureusement, jamais les pays européens n'ont divergé autant depuis la création de la zone euro dans les données d'après-guerre. Quelques éléments, le pays le plus exportateur du monde en 2016, selon IFO, c'est nos amis allemands, qui exportent plus que la Chine, alors que l'exportation française et allemande étaient à peu près les mêmes au début de la zone euro. Donc la France est le pays le moins exportateur de la zone euro, l'Allemagne le plus exportateur de la zone euro. Encore plus inquiétant, je dirais, moi ce qui m'inquiète plus, c'est que l'Italie, la productivité italienne est constante depuis 20 ans. Depuis 20 ans, la productivité par tête n'a pas augmenté. Donc nos amis italiens sont dans une phase de stagnation économique qui essaie de résoudre avec des choses budgétaires. Donc on voit qu'il va mal fonctionner. Donc tous ces déséquilibres sont maintenant, depuis la crise, conscients dans les débats européens. Et un nombre d'institutions assez impressionnant, pour revenir à votre question, est mis en place pour analyser la dimension du crédit, la dimension de la productivité, la dimension budgétaire, et essayer de faire reconverger tout ça avec une très grande indépendance des États, et c'est bien sûr partie du traité constitutif. Donc il y a une volonté de convergence européenne, en essayant de trouver des systèmes, et puis des États qui font des politiques qui parfois contribuent à accentuer la divergence. Ça peut être en France, ça peut être en Italie, mais aussi en Allemagne.
Daniel Schwarzer, évidemment, je vais vous demander dans un instant pourquoi l'euro ne fonctionne pas d'un point de vue allemand, mais Jean Quatremer, effectivement, la convergence des économies, c'était une idée centrale de l'euro. Comme l'a déjà un peu expliqué Xavier Ragot, ça n'a pas vraiment très très bien marché.
La pensée magique des années 90, puisqu'on voulait pas de fédéralisme politique, bah on a mis en place un pilotage automatique des politiques budgétaires et économiques des États via le pacte de stabilité qui date de 96-97, et puis qu'on a renforcé énormément au moment de la crise de la zone euro entre 2010-2012. Parce que les Allemands ont profité de cette crise, il faut bien voir, pour imposer leur vision de la politique économique et budgétaire. Le pacte de stabilité tel qu'il est ressorti de la période 2010-2012 est devenu un véritable carcan des économies qu'il n'était pas au départ. Au départ, c'était un vague substitut simplement à l'absence de fédéralisme, en attendant mieux. Désormais, c'est un carcan, c'est clair et net. On l'a vu par exemple avec la partie de bras de fer qui a eu lieu entre Bruxelles et l'Italie, et le problème fondamental, c'est que le pacte de stabilité tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est un pacte de stabilité qui est fait au profit des seuls Allemands. C'est-à-dire que les questions qui sont sur la table dans ce pacte de stabilité, c'est des questions qui ne posent pas problème à l'Allemagne. Le problème allemand, effectivement, c'est celui de l'excédent de sa balance courante, enfin, brièvement, de son excédent commercial. Pourquoi cet excédent commercial existe? Il est actuellement entre 7 et 9% du PIB. Et on estime qu'un excédent commercial de plus de 5% du PIB pose un problème majeur pour la stabilité de la zone euro. Or, on n'en parle jamais. Vous en entendez parler? Non. Imaginons qu'il n'y ait pas l'euro. Qu'est-ce qui se passerait? Le Deutsche Mark prendrait 30-40-50% de plus par rapport au franc et à l'Italie. Et cet excédent commercial se résorberait de lui-même, naturellement. C'est-à-dire qu'en clair, l'excédent commercial aujourd'hui des Allemands n'existe que parce qu'il y a l'euro, un euro qui est sous-évalué pour l'Allemagne. Ça serait pas très grave si les Allemands, au fond, réinvestissaient cet excédent de capitaux hein, qu'ils dégagent chaque année dans la zone euro. Et on s'aperçoit de quoi ? Eh bien que c'est plus du tout le cas. Ils investissent leur excédent de capitaux à l'extérieur de la zone euro, vers la Chine, vers les États-Unis, etc., etc. On s'aperçoit aussi que depuis une dizaine d'années, le commerce entre les États membres s'effondre. On avait dit, bah, grâce à l'euro, ça va être merveilleux, vous allez voir, on va développer le commerce puisqu'il y aura plus de variations monétaires. Donc forcément, bah, les Français avec les Allemands avec les Italiens avec les Grecs, et ainsi de suite, on va tous commercer entre nous et ça va être fantastique. Et on s'aperçoit, bah, que le commerce entre les États de la zone euro s'est effondré de près d'un tiers en l'espace de 10 ans. Ça pose quand même un sérieux problème. Or, toutes ces questions-là, on les aborde pas. La seule question qu'on accepte de traiter, c'est effectivement la question budgétaire. Et en clair, ce sont les Allemands qui expliquent que bah, les Français gèrent pas bien, ils font pas leurs réformes. Les Italiens gèrent pas bien, ils font pas leurs réformes. Les Grecs ne gèrent pas bien, ils font pas leurs réformes. Enfin, bref, aujourd'hui, la zone euro, elle fonctionne au profit et en fonction des règles posées par les Allemands.
Daniel Schwarzer, évidemment, le point de vue officiel allemand qu'on entend régulièrement, c'est si l'euro ne marche pas, c'est que en gros, on ne respecte pas les règles et en gros, les autres Européens ne font pas exactement ce que font les Allemands.
J'aimerais bien revenir tout au début, aux années tout au début de l'euro. Quand en 2000 à peu près, l'Allemagne fut caractérisée comme l'homme malade de l'Europe par la revue britannique The Economist. Et là, on était dans une période où l'économie allemande avait des problèmes avec l'union monétaire même. Donc, il y avait des taux d'intérêt trop élevés pour la situation de basse croissance au sein de l'économie allemande. L'euro, comparé à la compétitivité allemande dans le temps, était surévalué. Et l'Allemagne a embarqué dans un programme de réformes très profondes de son modèle économique et social. Et ceci a permis notamment une restreinte, une politique salariale très restreinte a permis à l'économie allemande de regagner une partie de sa compétitivité. Ce qui est vrai, à mon avis, et Jean Quatremer vient de le dire, l'investissement au sein de l'Allemagne ou au sein de l'Europe, mais venant de l'Allemagne et pas du tout développé.
Pour le moins insuffisant.
Oui, insuffisant. La critique de la zone euro du côté allemand se concentre notamment sur la question est-ce que les États membres de l'Union monétaire mènent des politiques entre guillemets responsables, c'est-à-dire réformes, restreintes budgétaires, etc. Et cette notion a été renforcée par l'expérience de la crise, notamment la crise bancaire combinée avec une crise des finances publiques, notamment en Grèce et dans d'autres pays. Et ceci a renforcé cette attitude allemande. Mais en même temps, je vois aussi une certaine évolution. Pour la première fois, et c'est très important à mon avis, le sommet franco-allemand en été dernier a mené à une position commune qui dit au moins qu'il faut réfléchir à une capacité fiscale qui inclut une fonction de stabilisation macroéconomique. C'est une position française de longue date, mais jamais partagée par le gouvernement allemand. Donc c'est un pas en avant, parce que tout ça reconnaît que le fonctionnement macroéconomique de la zone euro n'est pas parfait, et non seulement parce que l'adaptation par la flexibilité des marchés ne se fait pas comme prévu, mais aussi parce qu'on manque des instruments. On manque des instruments de stabilisation fiscale. Il nous fallait aussi un mécanisme de résolution de crise qu'on a fait au cours de la crise, mais c'est une reconnaissance qui est en train de se développer aussi en Allemagne, que c'est non seulement par les marchés que cette convergence peut se faire, mais qu'il faut des instruments politiques.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, 20 ans après sa création, l'euro est à la fois une monnaie incontournable et inachevée. Nous sommes avec Xavier Rago, économiste et président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, avec Daniela Schwarzer, directrice de la DGAP, c'est l'Institut allemand de politique étrangère, et avec Jean Quatremer, journaliste à Libération, qui vient de publier « Il faut achever l'euro » chez Kalman Levy. Xavier Rago, ce qu'expliquait Daniela Schwarzer, oui, c'est que, pour parodier un peu le titre du livre de Jean Quatremer, « Il faut achever l'euro », on n'est pas forcément en train de l'achever, mais on est en train de prendre conscience, oui, qu'il faut faire quelque chose.
Oui, et ça avance plus que ce que les gens pense. Ce qui est vraiment singulier en Allemagne, c'est la modération salariale. Les Allemands ont des salaires très très faibles, mais depuis 1995.
Oui, il y a beaucoup d'Allemands pauvres.
Voilà, il y a beaucoup d'Allemands pauvres, et ça a été une façon, il faut voir, je dirais pour aller vite, une mauvaise gestion de la réunification allemande, qui a fait exploser le chômage en Allemagne de l'Est, qui a fait que les Allemands, en 1995, ont fait une politique de décentralisation des salaires au niveau des entreprises. Ça vous rappellera quelque chose, en 95, pour essayer de faire de sorte que les salaires à l'Est soient plus en phase avec la productivité qui était très faible. Et le résultat inédit, auquel personne n'avait vraiment pensé, c'est que les salaires sont restés stables pendant 20 ans, jusqu'à quasiment 2007-2008. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que la capacité exportatrice, les salaires faibles, c'est pas du dumping social allemand. C'était vraiment la résolution d'un problème interne de l'Allemagne. Et aujourd'hui, pour vous donner les ordres de grandeur, la reconstruction d'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest, les estimations économiques disent que ça coûtait à peu près 1000 milliards d'euros par l'Ouest. 1000 milliards d'euros, c'est 3 fois l'entièreté de la dette grecque. J'insiste là-dessus, c'est pour pas trop caricaturer la position allemande. Maintenant, ce qui est évident, c'est que l'Allemagne est notamment sous-évaluée et les salaires sont trop faibles.
Les mini-jobs, hein, faut dire un petit peu,
voilà, ça s'appelle mini-jobs. Voilà, les lois Hartz. Ça arrivait en 2003-2004, les lois Hartz. Après, ils ont flexibilisé le marché du travail en raccourcissant les indemnités chômage, en créant des mini-jobs qu'on pouvait cumuler et qui a entraîné une modération salariale qu'on continuait jusqu'en 2007-2008. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on s'en sort? Comment on va faire reconverger tous ces salaires? Une excellente nouvelle pour vous donner les choses qui avancent, dont on parle pas assez. C'est que, en fait, l'Allemagne est de plus en plus française. L'Allemagne a introduit un salaire minimum en 2015, alors qu'avant, jamais salaire minimum. C'était les dialogues sociaux entre les syndicats, les entreprises. C'était trop français, oui, le salaire minimum.
C'est l'effet de la grosse coalition entre
voilà. Vous voyez, ils se sont rendus compte qu'ils ont du mal à faire augmenter les salaires. Ils ont introduit un salaire minimum à un niveau élevé, un niveau qui se rapproche du niveau français. Et aujourd'hui, les salaires allemands commencent à augmenter. Donc, il y a une reconvergence des salaires allemand, qui est une bonne chose, qui est très lente, un peu trop lente peut-être, mais il faut aujourd'hui repenser cette convergence des salaires. Et on peut le faire. Moi, pour ma part, je pense que vraiment, dans cette campagne, ce qu'il faut parler, c'est marché du travail européen. Et je pense que il y a 2 pistes. Jean Quatremer a parlé du fédéralisme fiscal, du budget. C'est une position très française. Moi, je suis pas convaincu. Moi, je suis sur un peu une autre ligne, c'est défendre une assurance chômage européenne. C'est d'essayer d'intégrer ce marché du travail européen. Alors, vu de France encore, ça paraît complètement utopique, une assurance chômage européenne. Ne serait-ce que le ministre des Finances allemand, Scholz, est pour une assurance chômage européenne. Juncker est pour une assurance chômage européenne. La dimension de stabilisation dont on vient de parler, l'assurance chômage est souvent évoquée parce que de plus en plus, on sent qu'il faut intégrer, créer quelque chose comme une Europe sociale par les marchés du travail pour refaire converger cette Europe. Donc je pense que cette assurance chômage comme mécanisme de stabilisation budgétaire aura un succès croissant, notamment avec... paradoxalement, avec l'impulsion allemande plus que l'impulsion française.
Alors Jean Quatremer, il n'y a pas forcément de contradiction entre une Europe fiscale qui existerait, une Europe sociale et une Europe d'assurance chômage européenne. Un certain nombre de choses quand même ont été mises en place, comme l'évoquait Daniela Schwarzer. Il y a maintenant, sous l'impulsion notamment d'Emmanuel Macron, qui avait dans son discours de la Sorbonne de septembre 2017 donné les grandes lignes de la façon dont il pensait, il voyait une amélioration de l'Europe, des choses assez positives quand même. Il y a un budget de la zone euro qui n'existe pas encore vraiment, mais dont on a admis le principe. Il y a un mécanisme européen de stabilité qui se met en place avec 750 milliards qui permet de gérer les crises. Il y a des petites choses qui se mettent en place, même si ça va lentement et même si ça ne va pas jusqu'au bout.
Mais disons qu'à chaque fois, depuis tous les instruments qu'on a mis en place depuis les années 2010, ça a toujours... D'abord, c'était des idées françaises à chaque fois. Et à chaque fois, on s'est heurté à un nein allemand, a priori. Donc, ça a toujours été non à chaque fois. On va aider la Grèce. Non, on va créer... on va faire une aide bilatérale à la Grèce. Bah non, on va créer le mécanisme européen de stabilité. Non, etc., etc. Donc, ça a toujours été un non permanent allemand. Mais même sur l'union bancaire, ils ont dit oui. Puis après, ils ont dit non. Et ils ont continué à bloquer pendant près d'une dizaine d'années, pendant 5 ans, l'achèvement de l'union bancaire, qui n'est pas encore tout à fait achevé d'ailleurs, puisqu'on n'a toujours pas mutualisé le fonds de garantie des dépôts. Parce que, comme toujours, l'idée, c'est que, et l'expression n'est pas de moi, hein, elle est d'un ancien ministre des Finances allemand, l'idée, c'est que le bon argent allemand, fin du guillemet, ne servent pas à aider des gens dépensiers du Sud et éventuellement
les fameux pays du Club Med.
Voilà, les fameux pays du Club Med, comme vous dites. Le problème, c'est que ce nom allemand, il a débouché sur un système qui est totalement déséquilibré. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont refusé, évidemment, que leur bon argent puisse être fédéralisé. C'est-à-dire, ils sont assurés que toutes les institutions qu'on crée resteraient intergouvernementales, c'est-à-dire contrôlées par les États. Alors, et non pas communautaire, ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire, c'est comme si la Banque Centrale Européenne était aujourd'hui gérée par les États et que les États disposaient un droit de veto sur la politique monétaire, ce qui heureusement n'est pas le cas. Là, les Allemands sont assurés à chaque fois que les États disposent d'un droit de veto, et donc, mais les partenaires de l'Allemagne ont bien eu conscience que s'il fallait obtenir 19 accords de parlements nationaux, 19 validations par les cours constitutionnelles nationales, le système qui a été mis en place à partir des années 2000-2012 pour instaurer une solidarité financière entre les États membres ne fonctionnerait pas. Donc on a tous renoncé à ce contrôle que les Allemands, eux, exercent à chaque fois. Il n'y a pas un plan d'aide, il n'y a pas une décision de politique monétaire aujourd'hui qui n'est pas soumise au Bundestag ou à la Cour constitutionnelle fédérale allemande. En revanche, à l'extérieur, pour nous, par exemple, comme il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de parlement de la zone euro et donc il n'y a aucun contrôle de ces institutions qui est assuré par un parlement ou par un parlement européen ou par un parlement national, on a le sentiment qu'on perd totalement le contrôle sur la façon dont est gérée la zone euro. C'est-à-dire que les réticences allemandes ont abouti en quelque sorte à lui donner les clés de la zone euro. Et c'est ça qui, à mon avis, est central dans les dysfonctionnements actuels de l'euro. C'est-à-dire que tous les citoyens sont attachés à l'euro, mais tous les citoyens se rendent compte que ce qui est décidé aujourd'hui à Bruxelles, par la Commission, par l'Eurogroupe, par les différentes instances, échappe à tout contrôle démocratique. On ne sait pas qui décide aujourd'hui de la politique économique et budgétaire européenne, et on ne sait pas comment faire pour en changer. Mais si on faisait tout ça, imaginez 19 parlements nationaux discutant des décisions qui sont prises à Bruxelles, autant dire qu'on peut bâcher, c'est-à-dire mettre la clé de l'euro sous la porte, et on passe à autre chose.
Ce qui veut dire que, pour vous, la solution, elle a été évoquée plusieurs fois, c'est qu'il faudrait un parlement de la zone euro, ou voilà, en tout cas un parlement européen réduit aux pays qui adhèrent à l'euro. C'est un peu, après, c'est purement technique, hein. C'est un peu cette idée.
Exactement. Si vous ne mettez pas de la démocratie massivement dans ce système, et de la démocratie européenne, à terme, les gens ne peuvent que rejeter ce qui se passe. Ce qui s'est passé, par exemple, avec le budget italien, où vous avez eu Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui a expliqué que le gouvernement qui venait d'être élu en... Moi, je l'aime pas, ce gouvernement, hein, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, c'est vraiment pas mon type de beauté. Que ce gouvernement devait respecter les promesses budgétaires faites par le précédent gouvernement, eh bien, dans ce cas-là, si on en est là, il vaut mieux dire que l'euro a abouti à l'abrogation des démocraties nationales. C'est-à-dire, vous votez, mais pour tout ce qui concerne votre budget, eh bien, tout ça se décide ailleurs. Je suis désolé, je veux dire que n'importe quel démocrate ne peut que se révolter contre cela. C'est-à-dire que là, on a construit un monstre, c'est-à-dire qu'il y a une jambe monétaire qui fonctionne bien, on n'a pas fait la jambe économique et budgétaire, et aujourd'hui on a un monstre qui est dysfonctionnel, et surtout ce monstre maintenant est contrôlé de la tête et des épaules par les Allemands, qui en plus on place leurs hommes et leurs femmes dans toutes les institutions pour s'assurer que surtout rien ne soit remis en cause.
Daniel Schwarzer, bon, on parle beaucoup des Allemands, je voudrais quand même avoir votre réaction au point de vue de Jean Quatremer. On arrive un peu au terme de cette émission, rapidement si vous le pouvez.
Oui, tout à fait. Il y a un besoin de démocratiser la zone euro, je suis tout à fait d'accord. Les problèmes ont été bien décrits par Jean. Mais je souhaite souligner que la question de légitimité de la zone euro, ça se pose aussi, cette question se pose aussi en Allemagne. Et là, tout à fait, dans la culture économique et l'approche politique qu'a choisi l'Allemagne vis-à-vis de la zone euro, les questions de légitimité se posent quand un pays n'adhère pas par les règles qui ont été décidées par tous les pays membres de la zone euro. Il faut comprendre cela. Deuxième chose qu'il faut comprendre pour la situation allemande, c'est que ce n'est pas un choix politique au jour le jour que le gouvernement fait quand il soumet des décisions ou des mises en œuvre, par exemple, des programmes de sauvetage à notre Parlement. C'est une obligation constitutionnelle et le fait que la Cour constitutionnelle a dû se prononcer à plusieurs reprises sur la mise en œuvre des mécanismes de sauvetage au sein de la zone euro, ça démontre qu'il y avait quand même des courants politiques qui ont fait appel aux cours constitutionnelles pour remettre en question cette solidarité financière que l'Allemagne politiquement a acceptée. Et donc, pour nous, si on avance d'une manière substantielle avec l'intégration de la zone euro, notamment la dimension fiscale, la dimension de partage de risques, etc., un jour, à mon avis, il faut revoir notre loi fondamentale, c'est-à-dire il faut un changement constitutionnel en Allemagne.
Alors, on arrive vraiment au terme de cette émission. Xavier Rego, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Une question, si l'euro n'existait pas,
si l'euro n'existait pas, ce qu'il se serait probablement passé, c'est que dans un premier temps, dans la crise, par exemple, pour parler d'un événement historique, les monnaies auraient été réévaluées, dévaluées. Ça aurait permis à certains pays de s'en sortir. D'autres pays, avec forte dévaluation, certaines entreprises, certaines encore pires banques auraient fait faillite, créant une panique bancaire. Il y aurait eu des encore plus, je dirais, dans la crise, il y aurait eu des soubresauts macroéconomiques du fait des brusques mouvements du change. Ça, c'est au moment de la crise. Maintenant, à plus long terme, c'est très dur de dire ce qui se serait passé si l'euro n'existait pas. Notamment, est-ce que l'Italie aurait été plus productive, plus aurait eu des gains de productivité salaire plus élevés ou moins élevés? C'est très dur de le dire. Maintenant, je dirais aux amis européens...
Tout ne s'explique pas par l'euro.
Tout ne s'explique pas par l'euro. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, quand même, quoi qu'on dise, de choix nationaux, démocratiques, qui ont fait des bons côtés, des mauvais côtés européens. Maintenant, la certitude, c'est qu'il faut que ces choix soient compatibles avec les démocraties nationales, ce que vient de dire Jean Quatremer, et qu'ils aillent beaucoup plus qu'avant dans une intégration intelligente, une pensée intelligente de l'intérêt européen collectif, avec des investissements de court terme pour des gains de long terme, ça c'est pour nos amis allemands, et un engagement réaliste en termes de d'évolution des salaires, ça c'est pour nos amis italiens.
L'euro, 20 ans à la fois incontournable et inachevé, on l'aura compris. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso. Jean Quatremer, je rappelle le titre de votre livre, Il faut achever l'euro, chez Kalman Levy. Sans oublier évidemment la revue de l'OFCE, Améliorer la construction européenne, que vous pourrez consulter en ligne sur la page de l'émission RFI.fr. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, RFI.fr, rubrique émission, ou encore l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Twitter et Facebook, Daniel Desesquel, ou que vous soyez à Francfort, Berlin, Bruxelles, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.